Bonjour et bienvenue dans le podcast « À la découverte de soi » de l'évêque Michel Ambourouet. Chaque semaine, vous y trouverez toutes les ressources essentielles pour favoriser le développement de votre relation avec le divin, avec vous-même et aussi avec les autres. Prenez une bonne inspiration et laissez-vous guider sur le chemin de votre transformation vers le leadership. Bonne écoute.
Il n'y a rien de simple dans le fait d'être roi. C'est compliqué. Vous êtes les enjeux de transactions et de tractations continues. H24, on veut vous coopter. On veut vous faire rentrer dans des systèmes pas simples. Et si vous n'avez rien qui vous soutient, écoutez-moi, si on n'arrive pas à vous avoir, on va avoir vos enfants. Et quand vous avez le sentiment que c'est bon, de toutes les façons, ce que je suis me suffit, un décret vient et tu n'es plus à ta place. Deuxième type de relation qu'il vous faut quand vous êtes sérieux dans le fait d'accélérer. Si c'est Dieu qui veut vous faire accélérer, il doit vous connecter. Premièrement à des rois. Si vous n'en êtes pas un, connectez-vous à ceux qui le sont. Deuxièmement, des serviteurs. Même si dans ce contexte, on parle de ceux qui montent pour servir l'homme de Dieu. C'est vrai même pour les rois. Écoutez-moi. Les rois, les sacrificateurs, de manière générale, ceux qui réussissent, ont toujours à leur côté des gens qui sont d'accord d'être à leur service. Non, je veux vous dire que quand Dieu veut vous faire prendre de la vitesse, il vous donne des gens qui sont d'accord de mourir pour vous. Comment ? Il vous donne des gens qui sont d'accord que leur vie devienne la vôtre. Le texte, j'ai pas le temps de revenir dessus, mais je vais essayer de dire deux, trois choses. Si vous avez fait attention au texte, le moment où on parle du serviteur d'Élie, à qui il va dire, va du côté de la mer et regarde. Cette fois, il n'est pas fait mention de lui jusqu'au moment où on a besoin de lui. Il y a des gens, vous devez accepter, s'il vous plaît, ça vous frustre, c'est pas grave, que vous n'existerez pour certaines personnes que par votre service. Quand on n'aura pas besoin de vous, on ne vous verra pas. Quand vous savez vous rendre, quand vous êtes utile, les yeux des gens s'ouvrent sur vous. Malheureusement, il y a des gens ici, dans cette maison, vous ne voulez pas servir. Parce que vous vous sentez dénigré, rabaissé dans le fait de servir un être humain comme vous. Cet homme à qui on va dire « monte, regarde du côté de la mer » pour servir révérend Richard, à ce niveau, il faut monter. Il faut accepter de passer à une dimension supérieure. On va lui dire « cette fois, retourne ». Ça veut dire que voici quelqu'un, tout ce qu'il fait, c'est aller regarder. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Repart. Il n'y a rien. Repart. Il n'y a rien. Repart. Toi, c'est fini. À la troisième fois. Moi, je suis son boy. Que moi je suis venu là pour simplement repartir, retourner. Il n'y a rien. À quel moment ça va venir? Je ne vois rien. Élie n'a jamais vu le nuage de la taille de la pomme de la main d'un homme. C'est son serviteur qui a vu. Mais Élie a décidé de faire confiance aux yeux de son serviteur. Retourne, il n'y a rien. Retourne, il n'y a rien. Très souvent, on ne donne pas le nom des gens qu'on envoie. Des serviteurs, ils sont pas nommés. Celui-là n'est pas nommé, nameless. Parce que ce n'est pas leur nom qui est important, c'est leur service. Il faut accepter dans ta vie là, sur cette terre des vivants, qu'il y a des gens pour qui ton nom ne sera pas important. C'est ce que tu vas faire. Lisez Exode 33, 11, 1, 2, 3. L'Éternel parlait avec Moïse, face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse. Je vous décris la scène rapidement. Il y a des tentes, ils sont dans le désert. L'une des tentes qu'on appelle la tente d'assignation est la tente où Dieu et Moïse se rencontrent. Dieu parle à Moïse, quand Moïse sort, son visage brille. Il donne des instructions, il met le voile pour qu'on ne voit plus que son visage est en train d'arrêter de briller. La Bible dit donc que la tente d'assignation était l'endroit où Dieu et Moïse se rencontraient. Dès que Moïse rentrait dans la tente, une nuée descendait devant la tente de telle sorte que tout le monde sachait que là, Dieu est en train de s'entretenir avec Moïse. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Vos Bibles disent que quand Moïse et Dieu finissaient de parler et que Moïse sortait de la tente, quelqu'un restait dans la tente. Voici la question que je me suis posée et que je veux que vous m'aidiez pour laquelle je veux que vous m'aidiez à trouver une réponse. Josué restait pour quoi? Josué restait pour qui? Quand Dieu et Moïse ont fini de parler, sachant que si Josué restait dans la tente, c'est que Josué était dans la tente quand Moïse et Dieu parlaient. Mais on ne fait pas mention de Josué parce qu'il n'est pas l'objet de la rencontre. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Un serviteur est capable d'être à côté de son leader, de son maître, de l'observer parler et de ne rien dire. Parce qu'en réalité, il n'est pas là pour parler. Il est là pour servir celui qui parle avec Dieu. Et Dieu ne lui adresse pas la parole. Parce que dans ce moment-là, en réalité, Dieu ne te voit pas. Dieu voit celui à qui il parle. Tu es là pour servir celui à qui Dieu parle. Vous m'entendez ou vous ne m'entendez pas? Ok, maintenant, quand Moïse sort de la tente, la nuée s'en va, c'est que Dieu parle. Mais Josué reste dans la tente dans laquelle Moïse et Dieu se sont entretenus. Je me suis dit peut-être, c'est pour capter les résidus, le reste. En fait, je crois qu'il y a des gens qui sont d'accord de rester dans la tente où Dieu parle même quand Dieu ne parle plus. Parce qu'ils savent simplement qu'ici, là, Dieu parle. Vous m'entendez ou vous m'entendez pas? Je suis en train de dire à quelqu'un que ce que vous prenez comme étant une perte de temps, vous ne savez pas que c'est ce qui est en train de distinguer Josué. Pour qu'un jour, Dieu, le Dieu qu'il a vu servir Moïse, le Dieu qu'il a vu être loyal à Moïse, lui dise: Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, toi c'est qui? Moi, c'est le serviteur de Moïse. Moi, c'est celui qui était là et que tu ne voyais pas. Moi, c'est celui qui était là et qui passait du temps à servir un homme. Qui était homme? Écoutez-moi. Quand vous voyez Josué devenir le prochain leader d'Israël, vous ne comprenez pas l'accélération de Josué. Mais si vous regardez à sa vie, vous allez trouver dans sa vie des moments où on appelait Josué serviteur de Moïse, fils de Noun. Ça veut dire que sa relation avec son père biologique passait après sa relation avec son leader. Tu es d'abord serviteur de Moïse avant d'être fils de ton père. Asseyez-vous, je vais vous aider. Ceux qui connaissent les Saintes Écritures un peu, vous savez qu'un jour Jésus est mort. Jésus est dans la tombe. Les disciples de Jésus, tous les hommes, se rendant compte que Jésus est mort, sont repartis à la pêche. Pierre le premier. Mais un jour, des femmes avec les aromates vont à la tombe pour embaumer, écoutez-moi, le corps de Jésus sans vie. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont d'accord de gaspiller du parfum, des aromates, sur le corps de Jésus sans vie. Je vous dis ça dans un langage plus simple. Est-ce que vous êtes capable d'adorer Dieu même quand il ne bouge plus? D'embaumer Dieu de votre louange, de votre parfum, de votre adoration, de vos offrandes, même quand Dieu ne fait plus. Il est sans vie, mais c'est Jésus. Il sent déjà, mais c'est Jésus. Il est dans la tombe, mais c'est Jésus. Je n'ai pas le mari que je veux, mais c'est Jésus. Je n'ai pas eu la promotion que je veux, mais c'est Jésus. il n'a pas bougé au niveau de ma santé, mais c'est Jésus. Il y a des gens qui ne servent pas Dieu que quand ils bougent. Il y a des gens qui servent Dieu même quand ils ne bougent pas. Il y a des gens qui vont à l'église même quand Dieu semble ne pas exaucer leurs prières. Il y a des gens qui sont fidèles même quand Dieu semble ne plus rien faire. Il y a des gens qui gaspillent leur argent sur Dieu même quand ils n'ont plus beaucoup d'argent. Il y a des gens. Puis il y en a d'autres. Dès que Dieu ne bouge plus, je repars à la pêche. Je repars à la vie que j'avais avant. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, tu adores qui? Quand ça ne va pas. Alors, même Matthieu 10, 24, 25, et je vais clôturer avec le dernier point. Je vais vous montrer quelque chose et je sais que ça va déranger. Dieu n'a certainement pas voulu par son esprit que ça aille sur les ondes. Mais je vais le dire. Matthieu 10, 24 à 25, si on peut lire ensemble, 1, 2, 3. Hey. Saint-Esprit de Dieu. Ok. Voici le problème que j'ai identifié dans l'église et qui justifie certains comportements. Certains d'entre vous, vous êtes sauvés, mais vous n'êtes pas convertis. Écoutez-moi bien. Vous croyez en Dieu, vous n'allez pas aller en enfer. Vous avez donné, en fait, vous avez reçu Christ. Mais vous n'êtes pas converti. Qu'est-ce que j'entends par là? La conversion à laquelle je fais référence, révérend Guy, Jésus dit ceci, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut être mon disciple, il doit renoncer à lui-même, il doit porter sa croix et il doit me suivre. On a des gens à l'église qui n'ont pas renoncé à eux, qui ne portent aucune croix et qui ne suivent qu'eux-mêmes. Jésus, pour faire des disciples, n'a pas fait confiance, gloire à Dieu, n'a pas fait confiance à leur bouche. Jésus a fait confiance à leurs actions. Et donc, on essaye de faire de vous des disciples en étant derrière vous, et ça ne produit pas le discipolat. Parce que ce n'est pas à nous de devenir vos disciples. C'est à vous de devenir nos disciples. Mais sauf que le discipolat ne peut se faire qu'avec quelqu'un qui a accepté de quitter. Le mot que j'ai découvert, qui fait référence au serviteur dans la Bible, qui est le mot grec doulos. Serviteur, dites serviteur. C'est joli quand on le dit. Tu es au service, donc tu es un serviteur. Mais en réalité, le mot le plus juste pour traduire doulos, c'est esclave. Et je vais le dire haut et fort. Si vous n'êtes pas esclave de Jésus, vous êtes toujours esclave du diable. Un esclave ne peut pas servir deux maîtres. Ça veut dire que ce qui me permet finalement de sortir de l'esclavage du diable, c'est l'esclavage en Christ. Si tu n'es pas sur l'autel de Christ, tu es toujours sur l'autel de ta famille. Tu ne peux pas ne plus être sur l'autel de ta famille et ne pas être sur l'autel de Dieu. Il n'y a pas de neutralité. N'en dites pousse et je pousse. Si tu n'es pas esclave de Jésus, tu es esclave de Satan. Mais si tu n'es pas esclave d'un homme, de Dieu, tu es esclave d'un sorcier. Que tu le veuilles ou pas, tu seras esclave de quelqu'un. Et je veux te dire la vérité, tu ne seras pas ton propre esclave. Parce que tu vas trop bien te traiter. Un esclave ne choisit pas où il va. Un esclave ne dit pas ce qu'il veut. Un esclave ne fait pas ce qu'il veut. Et il y a beaucoup de gens dans l'église, vous ne connaîtrez pas d'accélération parce que vous refusez l'esclavage. Si tu pouvais accélérer seul, tu l'aurais fait. Mais pour te faire accélérer, Dieu doit faire de toi un esclave. Et je termine avec cette dernière partie, c'est l'homme de Dieu. Je ne vais pas rester dans mes notes, sinon je vais déborder ici. Je ne veux pas. Suivez-moi. Le texte que j'ai lu avec vous, je vous ai dit, il y a trois relations majeures. La première, c'était les rois, j'en ai parlé un peu. Les serviteurs. Moi, Michel Embourouet, là où je suis, je me considère esclave de Jésus. L'apôtre Paul fait de même. Il dit Paul, esclave de Dieu, esclave de Jésus-Christ. Et bien plus, je me considère esclave de Mike Joctan. Et je sais que vous, vous ne voulez pas. Donnons-nous du temps et faisons le bilan. Attendez, attendez. Certains d'entre vous, donnons-nous même pas 10 ans, donnons-nous 3 ans. Pas juste l'année prochaine, parce que vous allez dire c'est la chance. 3 ans, fais le bilan. Où es-tu dans 3 ans? Quand tu fais le bilan et que tu n'es pas satisfait du résultat, change. Moi je sais, sans l'ombre d'un doute, que ma vie prend une autre tournure lorsque j'entends ces mots, es-tu le fils de Mike Joctan? Mais sauf que je comprends bien qu'en réalité, ce que Dieu me demande, c'est est-ce que tu es d'accord de te soumettre volontairement à un homme comme toi? Je vais vous parler rapidement de l'homme de Dieu pour vous aider. Dans ce texte, c'est Élie. Et vous allez vous rendre compte que le facteur déterminant pour le roi et le serviteur, c'est Élie. Parce que c'est Élie qui dit au roi, monte. C'est Élie qui dit au serviteur, monte. Ça veut dire que vous soyez roi, serviteur ou même homme de Dieu, vous devez monter. La Bible dit que Élie va monter pour prier, quand les autres vont monter pour manger. Suivez-moi, s'il vous plaît. L'une des relations dont tu as besoin dans la vie pour accélérer, c'est la relation avec un homme de Dieu. Maintenant, quand je dis homme de Dieu, malheureusement, certains d'entre vous, vous avez à l'esprit quelqu'un qui est parfait, qui ne se trompe pas. Quelqu'un qui, homme ou femme, quelqu'un qui, allez, qui est éloquent, qui se tient bien, qui s'habille bien, qui se comporte bien. Vous pensez aux valeurs morales quand vous pensez homme de Dieu. Et c'est vrai que l'homme de Dieu doit avoir une éthique de vie, doit avoir une façon de se comporter. En parlant de l'évêque, on donne des critères. En parlant des diacres, on donne des critères. En parlant des chrétiens même, on donne des critères. Mais je vais vous dire la vérité. Ce qui fait d'un homme de Dieu un homme de Dieu, c'est pas son éloquence. C'est pas son style vestimentaire. Et c'est même pas sa moralité. Ce qui fait d'un homme de Dieu un homme de Dieu, c'est la partie de Dieu. Ce n'est pas le titre qui fait d'un homme de Dieu un homme de Dieu. Parce que c'est possible d'avoir le titre et de ne pas avoir d'huile. Être un homme de Dieu, c'est une dignité. Ok, pour ceux qui prennent des notes, qui étaient en train de prendre des notes, un homme de Dieu, c'est premièrement un homme avec des faiblesses et des péchés. Un homme de Dieu, c'est un homme. Homme avec grand H, avec des faiblesses et des péchés. Deuxièmement, un homme de Dieu est appelé par Dieu pour les hommes. Appelé par Dieu et mis à part par d'autres hommes. Je reprends. Un homme de Dieu, c'est un homme avec des faiblesses et des péchés, mais c'est un homme appelé par Dieu pour les hommes. Dieu l'appelle pour les hommes, mais il utilise des hommes pour le mettre à part. Je l'ai dit ici et je le redis. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui a un message. Apôtre des païens, mystère caché dans tous les temps. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui a une mesure de grâce. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui a un modèle. Je suis Gabriel. Le mot Gabriel veut dire homme de Dieu, messager. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Pas je me tenais devant Dieu. Ça veut dire que pendant que je suis devant toi, je suis devant Dieu. Pendant que je suis devant toi pour te parler, je me tiens devant Dieu. Et j'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer une bonne nouvelle. Non, suivez-moi parce que si vous ne comprenez pas ça, ce que je vais dire et avec lequel je vais conclure va vous passer au-dessus de la tête. Quand je vous dis d'être connecté à un homme de Dieu, ou que Dieu vous donne un homme de Dieu, ce qui est la force d'un homme de Dieu, révérend Guy, c'est sa bouche. Là où se trouve le pouvoir de l'homme de Dieu, c'est dans sa bouche. L'onction est dans les os, mais le pouvoir de bénir que Dieu donne à l'homme de Dieu, c'est dans sa bouche. Les mains sont des canaux par lesquels Dieu peut passer. Il peut décider de transférer la grâce. Fais-moi un mets succulent afin que mon âme te bénisse. L'âme bénit, mais la bouche doit s'ouvrir. Un homme de Dieu ne doit pas normalement être comme un journaliste. Un homme de Dieu ne doit pas vous dire ce que Facebook peut vous dire. Un homme de Dieu n'est pas un docteur en termes de science. Il n'est pas un avocat. Un homme de Dieu n'est pas un enseignant comme un professeur d'université. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Un homme de Dieu est quelqu'un qui doit être capable de fermer ou d'ouvrir le ciel. La raison pour laquelle Akab respecte Élie, c'est parce que je sais que les prophètes de Baal ont essayé d'ouvrir le ciel. Ils n'ont pas pu. Akab dit, où es-tu Élie, toi qui troubles Israël? Ça veut dire que voici un homme fait de chair, avec ses faiblesses, mais qui est capable par sa bouche de décréter qu'il n'y aura plus ni pluie ni rosée, sinon à sa parole, et le ciel obéit. Écoutez-moi bien, vous devez avoir quelqu'un dans votre vie qui est capable d'ouvrir le ciel au-dessus de votre tête. Mais s'il est capable d'ouvrir le ciel, c'est qu'il est capable de le fermer. Vous devez avoir quelqu'un que vous respectez, que vous craignez, que vous aimez, qui est capable, quand vos prières s'arrêtent, de déclarer et de dire, parce que tu es connecté à moi, tu ne mourras pas. Être un homme de Dieu, c'est avoir la responsabilité de se tenir entre les hommes et Dieu, entre les hommes et le diable, et de pouvoir dire, Satan, tu t'arrêtes là. De pouvoir dire, Père, même s'il avait péché, à cause de ma parole, Seigneur, pardonne. Je plains les chrétiens qui ne croient plus en l'homme de Dieu. Écoutez, moi, j'ai étudié un peu. Je comprends la philosophie, je comprends Spinoza. Je comprends un peu Descartes, je comprends un peu Nietzsche. Je comprends les philosophes, parce que par étude, je les ai lus. Mais écoutez-moi bien, la spiritualité, ce n'est pas la philosophie. Nekalite para. Il y a des choses dans cette vie qui ne répondent pas au make-up, qui ne répondent pas à la coiffe, qui ne répondent pas à ce que tu as dans les poches, mais qui répondent à la parole. J'entends ce démon qui se tient devant les fils de Séva. Les fils de Séva lui disent, je te conjure par Paul, par le nom de Jésus que Paul prêche, sors de ce corps. Et voici ce que les esprits posent comme question et qu'ils vont te poser tôt ou tard. Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais toi qui es-tu? Je plains et je le dis ce matin, permettez-moi de faire preuve de folie, de parler un peu comme l'apôtre Paul. Si je devais me glorifier, j'ai des raisons de me glorifier. Je plains les gens qui ne m'écoutent pas. Je plains les gens qui pensent que parce qu'on a le même âge, ou parce qu'on a la même taille, ou parce qu'ils sont plus âgés que moi, mes paroles sont égales aux leurs. Je plains les gens qui sont dans mon église et qui croient que leur argent a plus d'importance que ma parole. Je plains les gens dont l'ego est si démesuré, qui ne sont pas capables de reconnaître quand Dieu met devant toi un homme de Dieu. Si je te dis ne fais pas, mon ami va faire et donne-moi raison dans quelque temps. Si je te dis ne rentre pas là, ma soeur rentre et donne-moi raison dans quelque temps. J'ai quelqu'un dans ma vie, l'évêque général. Je ne sais pas comment vous le voyez. Dehors, on parle de lui comme étant un homme politique. Dehors, on parle de lui comme étant X ou Y. Mais je connais cet homme depuis 96. Et ma vie ne serait pas ce qu'elle est si ce n'était pas à cause des déclarations de sa bouche. J'ai un homme de Dieu. là-dedans qu'il y a des gens. La sottise spirituelle, la bêtise humaine, l'ignorance des choses de Dieu t'emmène à croire que toi tu peux dire à l'évêque, tu peux bouder devant l'évêque et penser que tu vas t'en sortir. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir d'accélération pour certains d'entre vous. Ceux qui vont se faire initier respectent leur maître initiateur. Ceux qui sont dans les loges respectent leur maître dans les loges. Il n'y a qu'à l'église où un chrétien, sur la base de sa révélation personnelle, est capable de dire à l'évêque, tu te trompes, mais c'est la folie. Élie, le sacrificateur, voit Anne. Quand il voit Anne, il émet un jugement. Anne, tu as bu. Tu es mal ivre. Écoutez-moi bien. Il se trompe. Ça veut dire qu'il se trompe, mais à 100%. Anne n'a pas bu. Anne n'est pas ivre. C'est la douleur de son cœur qui fait qu'elle bouge la bouche sans son. Anne dit, mon Seigneur, c'est pas l'ivresse, c'est la douleur de mon âme. Le même Élie qui vient de se tromper il y a quelques secondes, révérend Richard, et qui vient de mettre un jugement humain sur une de ses propres brebis, il s'est trompé à 200%. Le même Élie, quelques secondes plus tard, ne demande pas son sujet de prière. Il lui dit, va en paix, tu es exaucé. Vos Bibles disent que Anne va se lever, va nettoyer son visage, va repartir en paix, va avoir un enfant. Mon problème, c'est je me dis, mais Anne, qu'est-ce qui te prend? Est-ce que tu ne te souviens pas qu'il y a quelques secondes, ce gars-là s'est trompé sur son diagnostic? Comment tu lui fais confiance quelques secondes après? Parce que Anne est plus sage que toi. Anne sait que Élie peut se tromper, mais quand Élie me bénit, il ne se trompe pas. Élie peut se tromper sur le diagnostic qu'il fait de ma vie. Mais si Élie me dit va en paix, je suis assez folle pour croire que je peux aller en paix et avoir mon enfant. Je ne suis pas ton ami, je ne suis pas ton camarade, je ne suis pas ton frère, je suis homme de Dieu. Ma propre mère qui m'a porté, ma propre mère qui m'a porté vient me voir avec une offrande pour me dire, évêque, prie pour moi. Et toi, c'est parce qu'on a grandi ensemble. Toi, c'est parce que tu me connais et tu m'as vu devenir pasteur que tu penses que toi et moi, on est pareil. Mon frère, écoutez-moi bien. Si tu ne crois pas en ton homme de Dieu, vous ne croyez pas aux hommes de Dieu de la maison, partez de l'église. Allez chercher des gens en qui vous avez croire. Vous allez croire parce que vous allez tourner en rond. Ça sert à rien que tu sois ici. Pendant longtemps, voici ce que je me disais. Et c'est à moitié vrai. Je me disais que les gens qui prient comme Élie a prié finissent par connaître une accélération. Parce que la Bible dit que lorsqu'Élie va descendre, Élie va devancer à pied Acab sur son char. Ça veut dire que parfois, pour connaître l'accélération, tu n'as pas besoin de char. À pied, Dieu est capable de te donner plus de vitesse que quelqu'un en voiture. C'est clair que la prière est l'un des facteurs qui favorise l'accélération. Mais ce serait faire une injustice au texte et à Dieu si je vous faisais croire que la prière suffit. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui prient, mais dont la vie n'accélère pas. Il y a un facteur dont vous devez tenir compte. En fait, il y a une grâce appelée vitesse. Il y a quelque chose que Dieu donne à un être humain qui est capable de lui faire prendre de la vitesse même à pied. Cette chose, le texte où Élie en parle comme étant la main de l'Éternel. La main de l'Éternel fut sur Élie Et il devança Akab. Ça veut dire qu'au-delà de la prière, il y a un mécanisme, un système, un véhicule que Dieu doit vous donner, qui s'appelle la main de l'Éternel. Quand la main de Dieu est sur toi, tu accélères. De manière simple, à tes efforts, à tes études, à tes prières, à tes sacrifices, il faut la main de Dieu. Tout ça, c'est bien. Mais si la main de Dieu n'est pas sur toi, tu n'accéléreras pas.
C'était À la découverte de soi, le podcast de l'évêque Michel Ambourouet. N'hésitez pas à utiliser chacune des ressources qui vous a été utile dans l'épisode que vous venez d'écouter. Et surtout, ne le gardez pas pour vous, partagez-le. Et rendez-vous sur michelambourouet.com pour encore plus de prédications et d'enseignements pleins de sagesse. À la découverte de soi vous est proposé par MA Organisation.